Chers amis des cellules, bonjour. Dimanche prochain, nous allons fêter la Trinité. C'est pourquoi je vous propose d'étudier aujourd'hui un extrait du dictionnaire de spiritualité à l'article Trinité et contemplation. Cet article permet d'éclairer comment la contemplation de la Trinité vient à nous. Je commence la lecture. Le christianisme affirme non seulement que Dieu existe, mais que Dieu a voulu se révéler par le don gratuit de sa parole. Sans la parole de Dieu, la religion culminerait dans la via negativa, la voie négative, dans laquelle l'homme cherche par la négation et la purification à dépasser le monde et à parvenir à l'un. Le christianisme, au contraire, affirme la futilité de tout effort venant d'en bas, et il proclame la bonne nouvelle de la parole venue d'en haut. Comme le dit Balthazar, la question absolument décisive est de savoir si Dieu a parlé à l'homme, c'est-à-dire s'il a parlé de lui-même ou de son dessein en créant le monde et l'humanité, ou si l'absolu reste silencieux au-delà de toute parole prononcée dans notre monde. Ce paragraphe affirme qu'il existe une voie naturelle pour connaître Dieu, la voie negativa. C'est une voie qui va s'interroger à partir de la contemplation du monde et qui va préciser petit à petit, j'allais dire, à chaque fois ce que Dieu n'est pas, parce qu'il n'arrive pas à en avoir la contemplation, mais il s'en approche en essayant de purifier cette idée, en allant de plus en plus loin pour dire ce que Dieu n'est pas. Cette voie est celle de la contemplation philosophique et elle permet d'arriver jusqu'à l'affirmation d'un Dieu unique à l'origine de toute chose. Cependant, la révélation nous permet d'aller plus loin. En effet, qu'est-ce que c'est que la révélation? C'est Dieu qui prend l'initiative de se révéler lui-même, Dieu qui prend l'initiative de nous parler de son dessein de création. En se révélant lui-même, Dieu facilite le chemin de la voie naturelle, mais apporte aussi des éléments que la voie naturelle n'aurait pas pu approcher. La Trinité fait partie de ce qui provient non pas de la spéculation, mais de la révélation. Il y a là déjà un élément que nous pouvons contempler, c'est que Dieu a voulu s'adresser à nous. Ce n'est pas anodin. Regardez simplement comment nous nous trouvons dans une assemblée, justement, si personne ne nous parle, ou si, au contraire, quelqu'un vient à notre rencontre pour se présenter, pour se faire connaître et pour nous connaître. Eh bien, nous avons, nous, cette certitude et cette joie de savoir que Dieu a voulu se faire connaître de nous, Dieu a voulu que nous le connaissions, Dieu a voulu entrer en relation avec nous. Il est parfois bon de se rappeler la surprise, l'étonnement ou la joie, justement, que nous avions parfois en étant enfants, quand quelqu'un de plus grand que nous, justement, s'intéressait à nous. C'est ce que Dieu fait avec nous. Je reprends la lecture. Si Dieu a adressé sa parole au monde, nous devons chercher l'origine de cet événement dans le Père. Si le Dieu trine est le mystère de l'amour, le Père est l'origine de cet amour, une origine qui est elle-même sans origine. Les grands théologiens du Moyen-Âge soulignaient que le Père est non engendré. Commentons cela un instant. Le Père est l'origine sans origine, il est la source ultime, la source de cet amour, la cause de cet amour. Et il n'y a pas une origine derrière lui, il n'y a pas un au-delà de lui. Vous savez que les petits-enfants posent parfois la question, mais qui a créé Dieu? Dieu, la réalité de Dieu, c'est justement celui qui n'a été créé par personne, celui qui est, qui existe de toujours à toujours. Je reprends la lecture. Mais cette caractéristique non engendrée exprime seulement un aspect de l'être du Père, car le Père, en tant que Père, engendre de toute éternité. Le Père ne retient pas sa divinité pour lui-même, mais il se donne en une fécondité et une donation infinie, à savoir son Fils. Ainsi, le Père est une ouverture infinie vers l'autre. Commentons cela un instant. Le Père engendre le Fils de toute éternité. Cette source de la vie, cette source de l'amour est éternellement féconde et généreuse. Elle se donne entièrement en son Fils. Elle se livre entièrement en son Fils. Il y a une dynamique de don au cœur même de la vie divine. Une dynamique généreuse vers ce qui n'est pas soi. C'est tout le contraire de l'avarice, c'est tout le contraire de la jalousie. Poursuivons la lecture. Mais en se donnant lui-même à l'autre, son Fils, le Père de toute éternité nous voit nous aussi ses créatures. Il n'y a jamais eu un temps où le Père n'a pas voulu être notre Dieu. C'est de toute éternité que Dieu jette sur nous un regard de grâce. Je passe la citation de Balthazar. En termes bibliques, c'est le mystère de notre prédestination de toute éternité par le Père dans le Fils. Dieu nous a élus dans le Christ dès avant la création du monde pour être saints et immaculés en sa présence. Commentons ce passage. Nous découvrons que la générosité du Père, qui s'exprime de toute éternité dans l'engendrement du Fils, a une surabondance. La surabondance de l'existence de créatures qui n'étaient pas Dieu et qui participeraient à la vie divine, qui seraient rendues participantes de la vie divine. Nous avons été élus dans le Christ. C'est quelque chose de très précieux à savoir, j'allais dire, d'autant plus quand peut-être notre origine dans cette vie humaine a été blessée, que nos parents ne nous ont pas voulu, qu'ils ne nous ont pas éduqués, ou que cela s'est produit avec de nombreuses blessures. Au-delà du projet ou de l'absence de projet de nos parents, il y a cette volonté bienveillante de Dieu, cette volonté généreuse de Dieu, que nous existions pour partager sa vie, pour bénéficier de son amour, pour goûter avec lui des joies de la vie éternelle. Ce projet est plus originel que notre propre naissance. Le garant de notre dignité, le garant de la dignité de notre existence, c'est Dieu lui-même dans son projet de vie surabondant. Je reprends la lecture. Quand les temps furent accomplis, cette parole fut prononcée. Le Père qui est invisible, inexprimable, transcendant toutes nos paroles humaines, devient visible et audible dans l'espace et dans le temps en Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître, dit saint Jean. Depuis ce moment, la contemplation chrétienne devient en même temps une possibilité et une nécessité. D'un côté, il y a le commandement du Père, « Celui-ci est mon Fils, mon élu, écoutez-le » dans l'Évangile selon saint Luc. Et de l'autre côté, il y a l'invitation de Jésus, « Venez et voyez » au chapitre 1 de saint Jean, et sa réponse à Philippe, « Qui me voit, voit le Père » en Jean 14 au verset 9. Ce paragraphe nous indique la volonté du Père que nous contemplions le Fils qui le révèle et l'action du Fils qui manifeste qu'il est bien la révélation du Père pour nous. Le paragraphe suivant développe et précise cette idée. Je reprends la lecture. Ici, nous sommes au cœur de l'incarnation et du mystère de la prière chrétienne. Le mystère de l'incarnation signifie que Jésus, dans la réalité de son humanité, est celui qui rend visible le Père. Chacune de ses paroles, de ses attitudes et actions humaines est une révélation de Dieu le Père. Dieu n'est pas révélé en passant à côté de son humanité ou par ce qui serait en lui surhumain, mais par une existence humaine ordinaire. Commentons ce passage. C'est dans la réalité de son humanité que Jésus rend visible le Père. Et donc ce n'est pas simplement le message de Jésus qui nous parle du Père, mais c'est ses paroles, son action, la façon dont il se comporte, sa présence, la réalité de sa chair, les contacts qu'il développe avec ses disciples. Donc toute la vie de Jésus dans toutes ses dimensions est révélation du Père. Le Père n'est pas seulement révélé dans ce qui est surhumain, dans les miracles, dans les gestes de puissance, mais il est révélé jusque dans la vie ordinaire de Jésus, jusque dans la vie cachée de Jésus, jusque dans ces moments où on ne voyait pas de différence entre Jésus et les autres hommes de Nazareth, par exemple. C'est ainsi que nous découvrons que l'ordinaire de notre vie, en lien avec l'ordinaire de la vie cachée de Jésus, est aussi, peut aussi devenir, est aussi appelé à devenir, manifestation du Père et de son amour. Les gestes simples de la vie quotidienne ne sont pas un obstacle à cette manifestation, mais le lieu où elle peut et doit se produire. Je reprends la lecture. D'où l'appel à la contemplation. Ce n'est pas seulement durant sa vie terrestre que l'histoire humaine de Jésus est révélation du Père, mais son humanité maintenant glorifiée demeure chargée d'une signification permanente pour notre accès à Dieu. Et le pèlerinage que nous commençons ici sur terre dans la contemplation de son humanité n'aura pas de fin. Éternellement, il nous introduira dans le mystère de son Père. Expliquons cela. L'humanité de Jésus continue à être aujourd'hui révélation du Père. C'est pour cela que, par exemple, sainte Thérèse d'Avila invitait ses religieuses du Carmel à partir de la contemplation de la vie de Jésus. C'est pour cela que les évangiles nous sont donnés à contempler, ou nous contemplons l'humanité de Jésus. Et je le répète, pas simplement ses paroles, son enseignement, mais ses gestes, à regarder son visage, à regarder ses mains, à regarder la façon dont il s'approche des uns et des autres, dont il les saisit, les relève. Cette humanité du Christ est le lieu de la révélation du Père, de la rencontre du Père, de son amour et de sa bienveillance. Notre point de départ, c'est de poser nos yeux sur Jésus, sur l'humanité de Jésus. Terminons notre lecture de l'article. Bien que ce soit la conviction de toute la tradition que le Christ peut nous devenir présent en le contemplant dans les évangiles, cependant, sans l'aide de l'Esprit-Saint, le texte sacré demeure lettre et n'a pas le pouvoir de nous introduire dans la révélation divine et la vie trinitaire. Ainsi, c'est l'Esprit qui nous ouvre le mystère du Christ et qui fait du Christ une réalité vivante pour le croyant. Et cela de deux manières. Premièrement, c'est l'Esprit qui ouvre les yeux du croyant pour voir qui est Jésus réellement et ce que ses paroles signifient. Durant son ministère terrestre, la vie et la mission de Jésus étaient transparentes. Cependant, la foule ne réussit pas à saisir son message. Il fallait un autre interprète pour tout expliquer et conduire ces hommes et ces femmes à la vérité. Faisons une pause ici. Il nous est dit que l'Esprit-Saint est celui qui nous permet de découvrir Jésus pour qui il est. C'est l'Esprit-Saint qui nous permet de comprendre aussi ce que Jésus veut dire jusqu'au bout. On souligne que Jésus n'a pas parlé de façon ésotérique et que pourtant les gens n'ont pas compris ce qu'il disait, n'ont pas compris ce qu'il voulait. Il a fallu que Jésus ouvre l'esprit des apôtres aux Écritures. Ils n'avaient pas compris tout ce qui était annoncé. C'est l'Esprit-Saint qui nous permet que ces lettres, cette encre et ce papier qui est devant nous, deviennent vivants. Que le lien entre ce qui est écrit et la vie réelle de Jésus et ce qu'il porte en lui et ce qu'il signifie nous apparaissent avec toute sa force. Pour prendre une image, imaginons que sur un papier il y a le prénom et le nom d'une personne qui soit écrit. Eh bien, l'Esprit Saint est celui qui fait que, en voyant ce prénom et ce nom écrit, en fait, j'ai vraiment la personne devant moi. La personne, j'allais dire, en chair et en os, vivante, capable d'interagir. L'Esprit-Saint, c'est lui qui fait passer de simplement cette écriture d'un prénom et d'un nom sur du papier à la rencontre d'une personne vivante. Donc on comprend son rôle fondamental. Je termine la lecture. Deuxièmement, grâce à l'Esprit, Jésus ne reste plus une réalité extérieure à moi, mais il devient une réalité vivante en moi, jaillissant pour la vie éternelle. Si Jésus, comme exégète du Père, révèle les profondeurs infinies du Père, puisque le Père est l'origine insondable de la Trinité, l'Esprit qui scrute les profondeurs de Dieu révèle l'insondable richesse du Christ. Ici encore, le mystère de la prière chrétienne devient le mystère du don trinitaire de Dieu. Dans l'Esprit, je suis conduit au Fils, et par le Fils, j'avance vers les profondeurs sans fond du Père. Retenons simplement cette dernière phrase, « Dans l'Esprit, je suis conduit au Fils, et par le Fils, j'avance vers les profondeurs sans fond du Père. » Je vous souhaite de bons échanges.